postale 455 Paris 7 ou secours-catholique.org.
La voie est libre.
Alexandre Meyer.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Nous allons ce matin parler des OGM qui sont à nouveau sur le banc des accusés. Depuis hier, une étude française révélée dans la presse révèle que des rats nourris avec un maïs transgénique auraient développé des cancers. Alors, les photos tournent en boucle et font apparaître ces malheureuses bestioles atteintes de tumeurs absolument effroyables. Nous allons en parler avec nos invités. Faut-il ou non avoir peur des OGM? Participez au débat. Appelez-nous 0156 2 x 4400. Et pour en parler, je suis heureux de recevoir autour de ce plateau Gilles Rivière-Weckstein. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de la revue mensuelle Agriculture et Environnement, auteur de « Faucheurs de science, les fanatiques sont dans nos campagnes », publié chez Le Publieur. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot de cet ouvrage?
Oui, alors il vient de sortir et en fait c'est un ouvrage qui fait le décryptage de comment on manipule l'opinion publique autour du sujet des OGM. Alors c'est pas un livre pour ou contre les OGM, hein, soyons clairs, c'est un livre qui vous fait un décryptage des manipulations organisées autour de ce sujet-là et qui au final a pris la science en otage. Et je pense que c'est vraiment d'actualité parce qu'on a maintenant un exemple assez vivant, si vous voulez, de cette prise en otage de la science par finalement des gens qui ont un objectif tout à fait politique mais pas scientifique.
Manipulation médiatique pour vous donc. Face à vous, le Marc Felous. Bonjour, vous êtes professeur de génétique à l'Université Paris 7, chef de l'unité d'immunogénétique humaine à l'Institut Pasteur et directeur des unités INSERM U527 et E0021 à l'IFR Alfred Jost de l'Institut Cochin. Que cachent ces labels enfin,
c'est mon trajet de ma vie de 50 ans de chercheur, enseignant, chercheur à Pasteur. Et maintenant, chercheur Alain Sturcuchin sur les maladies de la reproduction chez l'homme.
Et vous êtes président de la commission du génie biomoléculaire chargée de l'étude des risques liés aux OGM, justement.
J'ai été jusqu'en 2003.
D'accord. Auprès des ministères de la Culture et de l'Environnement.
Exact.
Donc vous connaissez bien ces questions. Avec nous par téléphone, on aura Corinne Lepage tout à l'heure, fondatrice du CRIGEN, présidente de CAB 21, parti humaniste et écologiste. Et le docteur Joël Spirou. Bonjour docteur.
Oui, bonjour monsieur.
Vous êtes président du CRIGEN justement et co-signataire de l'étude qui vient d'être publiée. Alors un mot peut-être de cette étude.
Et bien, écoutez, voilà, le laboratoire du professeur Serralini avec lequel je travaille depuis plus de 15 ans, nous avons déjà fait des études d'impact in vitro, en particulier du Roundup, qu'on a retesté cette fois-ci, et aussi on a réanalysé des OGM de Monsanto, et qui ont été publiés dans des revues à reviewers.
Un tout petit mot peut-être du Roundup, c'est un pesticide,
C'est un herbicide.
Herbicide.
Dans les pesticides, on a des herbicides, la famille des herbicides, et c'est un herbicide.
D'accord.
C'est l'herbicide le plus vendu au monde. Hein.
D'accord. Et donc les rats qui sont nourris avec ce fameux maïs, qui est traité avec le Roundup, ont développé ces affreuses tumeurs que vous avez remarquées, que vous avez observées.
Voilà. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la mortalité chez les rats traités par l'OGM seul ou l'OGM traité au Roundup pendant le développement en culture, pendant la culture, entraînait à la fois des tumeurs plus nombreuses et plus précoces, principalement chez les femelles, et des problèmes hépatiques et rénaux de façon très importante chez les mâles, et la mortalité est plus précoce aussi chez les animaux traités. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est la première fois au monde, et c'est quand même un peu bizarre que ce soit une association loi 1901 qui fasse cette étude-là, parce que c'est la première fois au monde que à la fois cet herbicide a été traité dans sa globalité, c'est-à-dire le glyphosate, la molécule dite active, plus les produits de formulation, ce qui n'a jamais été fait encore pour aucun pesticide, et c'est la première fois aussi au monde que un OGM a été testé vie entière sur des rats avec une quantité très importante de prélèvements sanguins, urinaires, anatomopathologiques, etc.
Ce qui fait la particularité de votre étude en particulier, donc c'est l'évaluation sur le long terme.
Tout à fait, c'est-à-dire le long terme, c'est-à-dire c'est vie entière chez des rats. Hein. Et donc nous, ça fait longtemps qu'on réclame ça au CRIGEN, puisque ayant mis en évidence des signes de toxicité sur des études de Monsanto au bout de 3 mois, on pensait que c'était pertinent de faire, non seulement pertinent, mais indispensable de faire des études au long cours, vie entière. et on est même étonné que personne encore, et même aucune autorité sanitaire, n'ait trouvé bon de faire des études vie entière sur des OGM.
Professeur Marc Felous, que pouvez-vous répondre au docteur Joël Spirou, président du CRIGEN, qui, je le rappelle, veut dire Comité de Recherche et d'Information Indépendante sur le Génie Génétique?
Bon, ce que dit mon collègue, monsieur Vélo, est un peu erroné, dans la mesure où j'ai sous les yeux une revue générale qui a été faite par Hannes Ricroche et mon collègue Marcel Kunz. Et ils viennent d'actualiser cette revue qui va être présentée à un congrès international en Turquie. Et dans cette revue, qu'est-ce que je vois? Je vois des expériences faites sur le maïs sur 2 ans. Je vois des expériences faites sur le soja pendant 2 ans. Un très grand nombre d'expériences avec la protéine BT ou avec le glyphosate. Et dans la plupart de ces articles de revues qui ont été colligés, il n'y a pas d'effet sur ces animaux. Alors la seule différence entre la publication tapageuse de mes collègues et ces publications, c'est qu'ils utilisent une lignée de rats différente. Ils utilisent la lignée de rats Wistar, dont nous savons qu'elle est peu susceptible au cancer, alors que la lignée qui est utilisée par mes collègues, qui ont publié cette nouvelle tapageuse, est extrêmement sensible au cancer. La moindre stress, la moindre nutrition riche favorise dans 90% de ces animaux à 2 ans un cancer chez les contrôles.
Docteur Joël Spirou, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Marc Felous?
Écoutez, je suis désolé, je ne peux pas dire ça. Bon, en préambule d'abord, je suis un peu désolé d'avoir à répondre à M. Felous. Je n'ai rien comment vous expliquer? Je suis très gêné pour une bonne et simple raison. C'est que je suis le président du CRIGEN, oui. Que je sais que le professeur Serralini a eu affaire en justice avec M. Felous, et que, M. Felous est actuellement encore en procédure pour faux usage de faux, contre d'ailleurs le CRIGEN s'est porté dans cette affaire-là, aussi, et Mme Corinne Lepage pourra vous en parler, ainsi que M. Gilles-Éric Serralini, et que M. Marc Felous a été condamné pour diffamation à l'encontre de M. Serralini. Mmh. Donc en dehors de ça, je voulais que ce soit précisé, en dehors de ça, ce que dit M. Felous, je n'attaque pas sa valeur scientifique, ce que dit M. Felous, d'abord, sur notre étude. Premièrement, quand il parle des rats, nous avons pris exactement les mêmes rats que ceux qui sont utilisés par Monsanto pour faire ses études. Ouais. On a pris justement exactement la même lignée. Ça, c'est déjà le premier point. Deuxièmement, l'étude dont il parle, où il y aurait naturellement des études faites déjà vie entière, l'étude Ricroche qui est sortie en janvier de cette année, eh bien écoutez, je suis désolé, mais ce ne sont pas des études de toxicologie, ce sont des études nutritionnelles dans lesquelles on ne retrouve pas beaucoup de prises de sang, de résultats anatomopathologiques, etc. Mmh. Et ce n'est pas des études non plus vie entière, c'est des cochons sur 2 ans ou 3 ans, c'est des vaches sur 3 ans, etc.
Écoutez, dans les paramètres que je vois de certains articles, il y a marqué paramètres histologie, biochimie.
Et oui, vous pensez, mais est-ce que vous avez regardé les études?
Oui, j'ai regardé les études.
De toute façon, vous pouvez retrouver nos réponses sur le CRIGEN.
Gilles Rivière-Vexheim.
Oui, moi, je suis pas scientifique, mais ce que le docteur Spirou a dit est très intéressant. Il a parlé du fait que c'est assez bizarre que ce soit une association de la 1901 qui lance cette étude. Mm-hmm. Moi, il y a quelque chose d'autre que je trouve très bizarre. C'est que si cette étude est dit vrai, si les conséquences sont aussi fortes que l'affirme cette étude, je ne comprends pas comment ça se fait qu'aucun gouvernement au monde, n'ait aujourd'hui suspendu l'autorisation de cet OGM. Même pire, parmi les sponsors de cette étude, vous avez Auchan et Carrefour. Donc je pense que le président d'Auchan et le président de Carrefour sont tous les deux conscients des résultats de cette étude. Or, ce que j'observe, c'est qu'aucun produit qui a été nourri avec cet OGM n'a été retiré des magasins de Auchan et de Carrefour. Donc, deux possibilités. Soit le président de Carrefour et de Auchan pense que les bénéfices financiers de cette société sont plus importants que la santé humaine, soit les présidents de Carrefour et de Auchan, qui sont les sponsors de cette étude, doute des conséquences et des conclusions de cette étude. Donc il n'y a pas que le professeur Felous, si vous voulez, aujourd'hui, qui met en doute les conséquences ou les résultats de cette étude. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de distance, regarder ce que vont dire tous les comités scientifiques qui vont maintenant se pencher sur cette étude, et eux apporteront des résultats par rapport ou des conclusions par rapport à un suivi beaucoup, beaucoup plus précis de cette étude. L'autre chose très bizarre, c'est que nous avons une controverse, je termine là-dessus, nous avons une controverse sur une étude, alors que la communauté scientifique a eu très peu le temps de la lire. Donc on a une voix qui a été très fortement médiatisée, qui a été médiatisée par une société de communication, qui vient en même temps que la vente d'un livre, qui vient en même temps que la vente d'un film, et qui vient en France, qui est le pays où on ne produit pas cet OGM, alors qu'au Brésil, où on produit cet OGM, visiblement, il n'y a rien. C'est quand même assez bizarre.
Docteur Joespire.
S'il vous plaît, moi je pense qu'il faut revenir sur le débat de fond.
Oui.
Bon, écoutez, c'est une étude scientifique qui a été publiée dans une revue avec des reviewers, donc par des pairs. Donc elle a été acceptée dans la même revue que Monsanto publie avec Amon Atoll, etc. Donc on ne peut pas dire qu'on a pris une revue de troisième zone. Ça c'est le premier point.
Elle a été
acceptée en l'état. Donc maintenant, moi ce qui m'étonne dans cette affaire-là, vous voyez, c'est qu'on sort une étude. Pourquoi est-ce que c'est effectivement anxiogène ? Eh bien, vous avez remarqué, si vous regardez un petit peu les études qui ont été publiées par le professeur Serigny depuis 15 ans, eh bien écoutez, on peut dire que grosso modo, c'est le seul scientifique qui publie sur les pesticides in vitro, sur des xénobiotiques in vitro, et aussi qui a pris en main la problématique des OGM avec des publications sur les OGM et l'impact des OGM. Donc c'est pas étonnant que ce soit nous. Alors, moi, ce que je vous dis, simplement, c'est que une publication scientifique sort comme ça. Pourquoi cette polémique ? La seule question, c'est d'étudier l'étude, d'apporter des contradictions scientifiques pertinentes et refaire l'étude. Moi, je vous engage, M. Felous, à refaire l'étude, il n'y a pas aucun problème. Je suis prêt à ce que vous fassiez faire toutes les études du monde pour nous montrer qu'on s'est trompé. Et c'est ça, la démarche scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une avancée, les autres refont la même expérience ou une expérience similaire, et puis on voit après ce que ça donne. Pour l'instant, des études telles qu'on a faites avec le protocole qu'on a fait, personne encore ne l'a jamais fait. Eh bien, refaites.
Docteur,
on en discutera.
Docteur Joël Spirou, j'ai une toute petite question. Ce maïs transgénique.
Je suis médecin, et moi je serais heureux de m'être trompé et de reconnaître que les OGM sont safe, mais je ne vois vraiment pas comment ces éponges à pesticides peuvent être safe, et en particulier vie entière.
Un mot, docteur, s'il vous plaît, du maïs transgénique NK603 de la firme donc Monsanto que vous avez étudié. Dans quel produit est-ce qu'on le retrouve quand même, pour que nos auditeurs soient conscients des dangers
En France, on trouve peu d'OGM, mais l'étude n'a pas vocation à être franco-française. Les problématiques de santé publique, elles sont mondiales. Et il me semble que tout chercheur doit s'intéresser à la planète entière plutôt que de s'intéresser à son petit cocktail dans lequel il va prendre quelques chips à base de maïs ou quelques produits dans lesquels il y a des farines de soja ou des résidus de soja. La problématique, elle n'est pas là. Il faut avoir une vision bien plus grande. Et moi, en tant que médecin, qu'on meure en France ou qu'on meure au fin fond d'Amérique du Sud, c'est la même chose.
Avant d'écouter la réaction de mes invités, on va recevoir Corinne Lepage. Bonjour madame.
Bonjour.
Fondatrice du CRIGEN, présidente de CAP21, je le disais, partie humaniste et écologiste. Quelle est selon vous la portée de cette étude, madame ?
Écoutez, moi ce que je trouve très important, c'est qu'elle existe. Je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas rentrer dans un débat scientifique de protocole, parce que je n'ai pas la compétence pour cela. Mais ce qui me paraît très important, c'est qu'une étude ait été faite sur des rats vie entière. Tout simplement parce que les études que nous avions pu voir faites par les promoteurs des OGM sur des rats nourris pendant 3 mois montraient des anomalies. Ces anomalies, elles ont toujours été écartées d'un revers de la main. On nous disait oui, c'est statistiquement significatif, mais pathologiquement, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que les rats et les rats ne réagissent pas de la même manière ou parce qu'il n'y a pas de relation entre la dose et l'effet. Or, ce que montre très clairement cette étude, c'est que si on se donne la peine d'aller chercher des causes hormonales à ces différences, on en trouve, et que deuxièmement, et ça c'est pas seulement l'étude du professeur Serralini, du docteur Spirou qui le montre, mais aujourd'hui c'est très largement reconnue par la communauté scientifique, la question de l'effet dose n'est plus considérée comme juste. C'est inexact, tout simplement inexact. Parce que la science a progressé, qu'on se rend compte que les faibles doses peuvent avoir un effet tout à fait considérable sur la santé humaine. Donc moi je trouve tout à fait normal et sain que l'étude soit contestée. Ce que je trouve tout à fait anormal, mais malheureusement c'est habituel, c'est qu'on s'attaque aux personnes au lieu de discuter l'étude. Mais là, on est sur quelque chose qui est habituel. Vous savez, les scandales sanitaires, nous en avons vécu énormément depuis la fin du 19e siècle. Le premier, ça a été l'amiante. Les risques de l'amiante, ils ont été dénoncés, tenez-vous bien, en 1896 par des inspectrices du travail britannique. Et il a fallu attendre 1976 pour que l'amiante soit interdite en France. Donc ça a duré un siècle. Et jusqu'à 1960 à peu près, tous ceux qui lançaient des alertes, qui étaient de plus en plus étayées, qui n'étaient même plus des alertes, qui étaient des études à répétition montrant la dangerosité de l'amiante, ont été attaqués à titre personnel. Ça a été la même chose pour Madame Frachon.
Mais là, Madame Lepage, concernant cette étude précisément, oui. Et ce maïs NK603, le Figaro cite hier la revue Food and Chemical Toxicology, qui montre sans ambiguïté qu'il y a déjà une bonne vingtaine d'études qui ont été menées sur ce produit et qui toutes concluent à l'innocuité des OGM sur le long terme et en particulier sur ce maïs qui est commercialisé depuis 2001 sans que les millions d'animaux qui en ont consommé aient présenté le moindre signe clinique. Comment se fait-il qu'on s'en aperçoive seulement maintenant ?
Je ne pense pas, monsieur, qu'il y ait une étude sur des rats nourris pendant 2 ans, c'est-à-dire vie humaine, vie complète qui ait été faite. Que les études, il y en a, c'est vrai, sur 2 ans, mais sur des très gros mammifères, vous ne pouvez pas comparer sur 2 ans sur une vache et sur 2 ans sur un rat. C'est pas du tout la même chose, la durée de vie n'est pas la même et l'animal n'est pas le même.
Mais la tumeur,
par ailleurs,
plus
la
grosse,
plupart
la
des études qui ont été faites, si j'ai bien compris, mais monsieur, moi je suis pas scientifique, encore une fois. Mon point de vue n'est pas scientifique. Mon point de vue est un point de vue de responsabilité, en disant une chose très simple. Il y a la mise sur le marché, la consommation d'un produit qui s'appelle OGM. Première observation, ça fait des années, les députés européens le réclament et nous finirons par l'obtenir, qu'il y ait réellement une étude sur les avantages que procurent les OGM au niveau de l'humanité. Ça, c'est un premier point. OGM alimentaire, dans l'état actuel de leur existence, c'est-à-dire des OGM qui sont tolérants aux pesticides ou eux-mêmes pesticides. Je ne parle pas des OGM futurs, peut-être, qui existeront pour permettre que des plantes poussent sur des sols secs, sans eau, etc. C'est un autre sujet. Pour le moment, ce n'est pas ça que nous avons sur la table. Donc moi, ce qui m'intéresse en tant que responsable politique, c'est de m'assurer que ce que mes concitoyens consomment est sans danger pour eux. C'est la seule chose qui m'intéresse. Je considère que des études à 3 mois sur des rats ne sont pas suffisantes. Et je me battrai en tant que députée pour qu'on ait des études sur 2 ans. C'est tout. Celle-là, elle a été faite sur 2 ans. C'est la première étude toxicologique. Je ne parle pas de nutrition, mais toxicologique, sur une si longue durée, avec autant de paramètres. Voilà, on peut la critiquer, c'est possible, mais elle existe. Alors maintenant, il faut en faire d'autres.
Merci Corinne Lepage, j'en écoute la réaction de Gilles Rivière-Weckstein.
Oui, ce que Corinne Lepage a dit est vraiment très intéressant et très pertinent, parce qu'effectivement, la vraie question, c'est de savoir, a-t-on besoin, oui ou non, des OGM. Et ça, c'est un vrai débat. En revanche, de faire peur à la population en disant « attention, c'est dangereux pour la santé, regardez, nous l'avons prouvé, et donc il faut arrêter les OGM », ça, c'est pas la même chose. C'est là où il y a un emballement, une prise d'otage, si vous voulez, de la science, justement. En ce qui concerne l'aspect scientifique, j'ai bien entendu monsieur le docteur Spirou qui dit qu'il aimerait avoir tort. Eh bien, écoutez, faisons le pari. Aujourd'hui, suite à cette étude, toutes les agences internationales ont été sollicitées pour se pencher sur cette étude, ce qui est tout à fait normal. Donc l'ANSES va donner son avis, je pense, avant la fin de l'année. La même chose avec le Haut Conseil de biotechnologie, mis en place par le gouvernement précédent, va donner son avis. L'EFSA va donner son avis. Donc moi, je suis un petit peu légaliste, mais je pense que voyons ce que tous les autres experts ont à dire sur cette étude. Et s'ils concluent qu'effectivement l'étude de M. Serrini est pertinente, on va revoir, il faudra revoir effectivement les évaluations. S'il conclut en revanche que cette étude n'est pas pertinente, j'attendrai de M. Spirou, à ce moment-là, qu'il vienne effectivement dire qu'il s'est trompé. Plutôt, et moi j'anticipe un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'on va déjà nous sortir l'idée que tous les autres scientifiques sont un petit peu corrompus, vendus, et que seul M. Seralini a raison. Parce qu'en fait, c'est déjà ce qui s'est passé avec toutes les autres études qu'il a faites, si vous voulez, et qui ont été essentiellement réfutées par la communauté internationale. Donc, soyons un petit peu... Essayons de garder raison. Si on veut un débat de société sur les OGM, prenons-le. Effectivement, est-ce que ces OGM sont pertinents pour les agriculteurs? Est-ce qu'ils sont pertinents pour le consommateur? Est-ce qu'on en a besoin? Ça, c'est un vrai débat. Maintenant, arrêtons de prendre la science en otage. Et c'est pour ça que mon livre s'intitule « Faucheurs de science ». Parce que finalement, derrière ça, qu'est-ce que les faucheurs ont fauché? C'est pas cet OGM-là, c'est la recherche. C'est la recherche française en biotechnologie qui est partie. Prenez l'Imagrin, le plus grand semencier français, qui est le seul à pouvoir concurrencer Monsanto. Il a été bouté hors de France, la recherche de l'Imagrin. Vous prenez BASF, vous prenez Bayer, toutes ces firmes-là aujourd'hui font la recherche à l'étranger. Il n'y a plus de recherche française sur les biotechnologies. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui de ce vrai débat. Maintenant, en ce qui concerne l'étude de M. Seralini, voyons calmement ce que disent les autorités sanitaires internationales. Je remarque tout simplement que, en tout cas, cette étude n'a pas alerté suffisamment les pouvoirs publics pour qu'ils déclarent un moratoire immédiat sur cet OGM, ni en France, ni ailleurs dans le monde. Donc cette étude n'a pas convaincu les pouvoirs publics.
Docteur Joël Spirou. Docteur, je ne sais pas si vous êtes toujours...
Je serai prêt à reconnaître qu'on s'est trompé. Mais le problème, et ce n'est pas la question du professeur Seralini ou pas, c'est qu'il y a une étude scientifique qui sort, qui montre des perturbations. Il faut le dire, c'est dit. Maintenant, moi, ce que je vous dis, mais refaites les études. Je suis tout à fait favorable. Refaites les études et montrez-nous qu'en refaisant les études, et sur les 30 OGM au moins qui sont mis sur la planète, ils sont tous sanitairement corrects pour l'alimentation mondiale, et je ferai amende honorable. Mais pour l'instant, personne n'a osé faire ce type d'études. Pourquoi? Parce que économiquement, c'est pas valable. Et alors, quand on veut me dire que naturellement, l'Imagrin va mal, etc., les biotechnologies sont développées en France, de très nombreux laboratoires de recherche travaillent, des laboratoires pharmaceutiques qui nous produisent des protéines recombinantes, qui nous produisent l'insuline que je prescris au quotidien, et je n'y vois aucun mal, au contraire, c'est très bien. Donc, la recherche sur les biotechnologies, eh ben, elle avance aussi en France. Le seul problème, c'est la biotechnologie utilisée pour faire des OGM alimentaires et des plantes à pesticides pour nourrir la planète éventuellement. Et force est de constater qu'on ne la nourrit pas encore. Donc, voilà le problème. Moi, je suis prêt à refaire d'autres études. Et puis, je vous invite à en refaire autant que vous voulez et nous montrer de façon transparente et contradictoire vos résultats et l'affaire sera, scientifiquement mise sur la table, mais pas perturbée par l'aspect économique. L'aspect économique, pour moi, vient après l'aspect sanitaire.
Ben c'est docteur, on a beaucoup entendu parler. Tout de suite, quand même, pas simplement, je précise qu'il s'agit du professeur, on entend beaucoup parler du professeur donc Seralini depuis le début de cette émission. Il s'agit du professeur Gilles-Éric Seralini, professeur des universités et qui est président du conseil scientifique du CRIGEN, comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, dont vous êtes fondatrice. Corinne Lepage, on vous écoute.
Oui, alors d'abord, ce que je voulais dire, c'est bien montrer que la démarche qui avait été celle du CRIGEN est à l'opposé d'une démarche anti-recherche et anti-science. C'est précisément parce que nous estimions que nous n'avions pas suffisamment d'éléments de connaissance que cette étude a été mise en route. Parfois, de conséquence, je n'admets pas que notre démarche soit assimilée à celle de destruction des champs de recherche. C'est exactement le contraire. Ça, c'est le premier point. Et là-dessus, je pense qu'il faut avoir une très grande fermeté. Parce que très souvent, on oppose à ceux qui ont des réserves sur telle ou telle technologie le fait qu'ils sont des obscurantistes. Ce que nous avons voulu montrer, ce que j'ai souhaité moi en tant que présidente, puisque à l'époque où l'étude a été lancée, je l'étais, je ne le suis plus depuis 3 ans, puisque Joël Spirou préside désormais le CRIGEN, et je n'y joue plus aucun rôle exécutif, mais ce que j'avais voulu à l'époque, c'était précisément montrer qu'on pouvait avoir des réserves sur une technologie, mais vouloir en savoir plus, et qu'on était friand de connaissances et de progrès de la connaissance et de la science. C'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Deuxièmement, personne n'est otage de personne. Il y a une expérience qui a été menée. Cette expérience, elle a été filmée et elle montre effectivement des images qui sont des images extrêmement fortes. Lorsque cette expérience a été lancée, nous ne pouvions pas imaginer que ça donnerait ça. Et nous ne pouvions d'autant moins l'imaginer que, contrairement à ce qui se répand dans la presse depuis deux jours, les espèces de rats qui ont été choisies pour faire ces études sont exactement celles qui sont utilisées par Monsanto pour faire ses propres expériences.
C'est ce que le docteur Joël Spirou nous a dit au début de l'émission.
Les mêmes souches de rats. Donc on ne pouvait pas savoir ça. Je dirais que les choses sont apparues au fur et à mesure du temps. Dans la communication personnellement que j'ai eue et dans ce que j'ai demandé au ministre européen, c'est premièrement de refaire une évaluation, parce que ça me paraît indispensable, et je suis tout à fait d'accord pour qu'elle soit faite au niveau communautaire et par l'agence de sécurité sanitaire. Par contre, là où je serai très vigilante, c'est qu'il n'est pas acceptable que ce soit les experts qui ont déjà examiné le NK603 qui examinent cette étude-là. Il faut que ce soit d'autres experts. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une règle de déontologie élémentaire que tout le monde peut comprendre. On ne peut pas être jugé parti. Personne n'a envie de se déjuger. C'est totalement humain. Et par voie de conséquence, il ne faut pas que ce soit les mêmes qui expertisent l'étude du professeur Serralini. C'est un point très fort.
Madame Lepage, le HCB ne contient pas de scientifiques qui se sont prononcés sur le...
Non, mais je ne parle pas du HCB.
Ah ben, il va se prononcer quand même, donc on va voir son avis. Oui, mais on aura l'avis de la France aussi avec le HCB.
On va marquer une très très courte pause, chers invités. On y revient dans 2 minutes. On revient dans ce débat dans 2 minutes. Faut-il avoir peur ou non des OGM? Appelez-nous 01 56 2 x 44 00. A tout de suite.
La voie est libre. 01 56 56 44 00. Chaque semaine, dans Et Dieu dans tout ça, James Combépine nous propose de partir à la rencontre d'une personne, qu'elle soit croyante ou incroyante, pour aborder ensemble son rapport à l'homme, à la vie, à la spiritualité et à Dieu. Et Dieu dans tout ça, avec James Combépine, le samedi à 8h03 sur Radio Notre-Dame.
Cette semaine, James Combépine s'entretient avec Richard Bohringer, écrivain et comédien.
Le Monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame.
8h30, 18h,
le journal de Radio Vatican.
La Palestine ne sera pas un État membre à part entière.
19h,
le magazine.
Le pape encourage la recherche sur les cellules souches adultes.
Minuit 30,
l'actualité de l'Afrique.
Rendez-vous avec l'Afrique.
L'actualité de toute l'Église,
c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi, c'est du lundi au vendredi à 6h33 et 18h25 sur Radio Notre-Dame.
Les éditions Salvatore et La Procure sont heureux de vous annoncer que l'auteur de Père Elijah, Michael O'Brien, vient spécialement du Canada à Paris pour la sortie de son nouveau livre Théophilos. Il sera lundi 24 septembre à 18h30 au Centre Sèvres, 35 rue de Sèvres, Paris 6e, métro Sèvres-Babylone. Michael O'Brien présentera Théophilos, son dernier roman, et répondra aux questions de ses lecteurs. Retrouvez tous les renseignements sur le site des éditions Salvatore.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Vous êtes très sollicité et vos moyens sont limités. Aujourd'hui, nous vous demandons de faire le choix de Radio Notre-Dame, parce que c'est un engagement utile, parce que c'est un média libre, parce que c'est la voie de la vérité et de la liberté, parce que c'est aussi une radio qui ne perçoit aucune aide, si ce n'est la vôtre. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e. Merci.
La voie est libre. 01 56 56 44 00.
Retour dans la voie est libre pour parler aujourd'hui des OGM. Nous réagissons à une étude française sur des rats nourris avec un maïs transgénique, le NK603, et qui ont développé des cancers extrêmement inquiétant. Alors, faut-il avoir peur ou non des OGM? Pour en parler, Gilles Rivière-Weckstein est avec nous, fondateur de la revue mensuelle Agriculture et Environnement, le professeur Marc Fellous, professeur de génétique à l'Unité Paris 7, Corinne Page, fondatrice du CRIGEN, présidente de CAP21, et on remercie le docteur Joël Spirou qui était avec nous pendant une demi-heure, président du CRIGEN et co-signataire de cette fameuse étude. Professeur Marc Fellous, une réaction à ce qui a été dit jusqu'à présent?
Alors, depuis la publication de l'article il y a 2 jours, cet article a circulé dans Le Monde, et ce qui est très intéressant, c'est que les 5 toxicologues de réputation internationale de la Société de Biologie Internationale à Londres, au Imperial College London, à Adelaide en Australie, aux États-Unis, à l'Université de Cambridge, disent que en ayant lu cet article, les résultats ne leur semblent pas valides pour conclure ce qu'ils disent, pour trois raisons. La première raison, c'est le nombre d'animaux par lot, qui est petit. En général, il en faut une quarantaine. Deuxième raison, les analyses statistiques avec ce petit nombre n'a pas beaucoup de signification. La troisième raison, c'est que la lignée qui est utilisée, certes, par Monsanto, c'est une lignée à haute fréquence de cancer. Et d'ailleurs, dans leur article, au bout de deux ans, tous les animaux ont des cancers ou sont malades, y compris dans les contrôles. Ça veut dire qu'à deux ans, il n'y a pas de différence entre les animaux qui mangent des OGM
et les autres.
Donc ça signifie donc qu'il y a un problème, d'analyse, de conclusion de ces résultats.
Corinne Lepage.
J'ai pas très envie de débattre avec M. Fellouz, que nous avons fait condamner pour diffamation à l'égard du professeur Serralini, à l'encontre duquel il y a aujourd'hui une procédure pour faux usage de faux qui est lancée. Je tiens quand même à le dire parce que il y a un vrai problème avec M. Fellouz.
C'est
un
début d'émission par le professeur, par le docteur Joël Spirou.
C'est pour les attaques personnelles, Madame Corinne Lepage, ça? C'était pour les attaques personnelles, Madame Corinne Lepage?
On laissera.
Non, monsieur. Écoutez, si j'avais su que vous étiez à cette émission, je pense que je n'aurais pas accepté de débattre. Voilà.
Pourtant, nous n'avons pas de procès en ça, il me semble.
Je vous remercie d'être en ligne avec nous toutefois. Donc, si vous voulez bien nous donner votre opinion là-dessus.
Alors, deuxièmement, les critiques que vous venez de faire, moi, je ne suis pas scientifique. Donc, je ne suis pas là pour répondre sur des questions scientifiques. Ce que je veux dire, c'est que les lignées utilisées sont les mêmes que celles de Monsanto, qu'il est vrai que 10 rats par cohorte, c'est très peu, je suis tout à fait d'accord, mais c'est le protocole habituel. Et c'est sur 10 rats par cohorte que sont données toutes les autorisations d'OGM aujourd'hui dans le monde. Alors vous avez raison, mais vous avez tort pour Monsanto, comme pour l'étude du professeur Serralini, c'est exactement la même chose. Troisièmement, il est tout à fait normal que tous ceux qui ont toujours trouvé très bien qu'il n'y ait pas d'études sur les rats, voire que des études à 90 jours soient suffisantes, ne veulent pas que ces protocoles-là soient remis en cause. Parce que derrière les questions qui sont posées par l'étude, et c'est pour ça que j'insiste tellement sur la nécessité d'en faire d'autres et de les faire par des organes indépendants et sur fonds publics et non pas sur fonds Monsanto ou autres, eh bien, il est indispensable que l'on ait des réponses clair aux questions que nous nous posons sur le long terme. Vous dites au bout de deux ans tous les rats meurent. Évidemment, monsieur, au bout de 100 ans, tous les humains meurent aussi. Par voie de conséquence, c'est pas opérant comme observation.
Corinne Lepage, 46 OGM sont autorisés par l'Union Européenne, dont 44 pour la commercialisation via des importations. En effet, seuls 2 OGM sont cultivés en Europe. Oui. Le maïs MON 810 de Monsanto et une pomme de terre de BASF.
En flora, à laquelle BASF a renoncé.
D'accord. Est-ce qu'on n'inquiète pas la population en pure perte finalement? Est-ce qu'on n'inquiète pas la population en pure perte avec ces études-là?
Non, monsieur, on confond deux choses, pardonnez-moi.
Je vous en prie.
D'abord, il ne s'agit pas d'inquiéter, il s'agit de dire des réalités et de poser de bonnes questions. Les gens sont inquiets sur leur alimentation, la question posée par cette étude, c'est sur les OGM, mais c'est également sur le Roundup, et c'est également sur les pesticides, et c'est également sur les perturbateurs endocriniens, et il n'y a pas une famille en Europe aujourd'hui qui n'ait pas autour d'elle une personne qui souffre d'un cancer. Donc il est tout à fait normal que les gens se posent des questions sur ce qu'ils mangent. Ça, c'est un point qui me paraît quand même très important. Alors, deuxièmement, sur le fond du sujet, il ne faut pas confondre ce qui est mis en culture et ce qui est consommé. Jusqu'à présent, en Europe, le débat a été essentiellement mis sur le terrain de l'agriculture, c'est-à-dire de la mise en culture. La question qui est posée par cette étude, et qui est une question que personnellement je pose depuis des années, que j'ai posée au niveau du Parlement européen quand on a rediscuté de la directive 2018 il y a quelques mois, c'est la question de l'impact sanitaire. C'est une question qui a été largement abandonnée au profit de celle de la contamination génétique, c'est-à-dire des champs. Et ce que nous mangeons n'est pas forcément ce que nous cultivons, puisque vous le disiez vous-même, il y a 40 OGM qui sont importés, par voie de définition, ceux-là même ne sont pas cultivés.
Tout à fait.
Et pourtant, ils sont consommés directement ou plus largement, indirectement, par la voie des animaux que nous consommons nous-mêmes. Il n'est pas prouvé, et je ne l'ai jamais dit, et je ne le dirai pas parce que je ne l'ai pas. Corinne Lepage, qui lui-même a consommé un OGM peut avoir un impact sur la santé humaine. Je ne sais pas. Mais c'est une question que tout le monde se pose, évidemment.
Gilles Rivière-Weckstein, une petite réaction.
Oui, non, moi, je n'ai rien à dire là-dessus, si vous voulez.
Qui profitent les OGM, alors? Aux agriculteurs, aux consommateurs?
Non, le problème, si on veut lancer la question sociétale des OGM, ça, c'est une vraie question. Et là-dessus, il faut la débattre. Aujourd'hui, il est vrai que les seuls OGM qui sont proposés aux agriculteurs, enfin au public, si vous voulez, sont des OGM pour lesquels le consommateur n'a pas tellement d'intérêt. Et donc, comme il ne voit pas trop d'intérêt, il y a peut-être un doute, est-ce que c'est dangereux ou pas, il n'a plutôt pas envie d'en manger. Maintenant, pour un agriculteur qui a des problèmes de pyrale, par exemple, lui peut estimer, un producteur de maïs peut estimer que c'est utile ou pas. Ça, c'est une autre question. On est dans une question de choix d'agriculture, on est dans une question de choix de société, mais je ne comprends pas pourquoi amener ce débat-là sur le terrain de la santé, et ensuite, il y aurait une sorte de gigantesque complot qui ferait en sorte que finalement, tout ce qui a été autorisé, ce serait la mainmise de Monsanto derrière tout ça, et toute personne qui va maintenant contester cette étude, contester son protocole, serait corrompue, vendue, tout ça. On est dans un monde bien étrange, si vous voulez. Et ça, c'est là où je ne suis pas d'accord. Qu'on soit contre les OGM ou pour les OGM, pour des raisons politiques, mais il n'y a pas de problème. Il faut que ce débat soit politique. Mais retirons cet aspect scientifique. Il n'y a pas de problème scientifique.
On va écouter Marie-Claude Duval d'Oise. Bonjour Marie-Claude.
Oui, bonjour. Merci de me permettre de poser cette question. J'en ai à fait dire deux ou trois. La première, c'est la suivante. Au fond, en tant qu'auditrice, et pas forcément de façon vraiment scientifique, la question que je me pose, c'est: qu'est-ce que c'est exactement qu'un organisme génétiquement modifié, une plante ou autre chose? Deuxième question, est-ce que ce que nous consommons, le blé, les pêches, les abricots, de ça ne sait quoi, est-ce que, effectivement, qui composent le repas ordinaire, est-ce que ces éléments-là n'ont pas été également modifiés? Et en quoi les éventuelles modifications sont-elles différentes de celles dont il est question concernant le maïs? Voilà, merci infiniment.
Merci beaucoup à vous, Marie-Claude. On va demander donc au professeur Marc Felous de nous répondre. Alors, effectivement, on parle depuis le début de l'émission d'OGM sans avoir tout à fait précisé de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez en deux mots nous expliquer cela?
Les OGM, c'est un monde extrêmement vaste qui concerne les bactéries, les virus, les plantes et les animaux. Les animaux comme les chèvres, les moutons, par exemple. Donc il s'agit par principe de prendre une cellule de ces bactéries, virus, plantes, petits animaux, et l'homme leur fait rentrer par une technique qu'on appelle la transgénèse un gène qui n'appartient pas à cette espèce, ou qui appartient à cette espèce comme pour la pomme de terre. Et donc cet organisme, avec ce nouveau gène, soit de la même espèce, soit d'une autre espèce, s'appelle un OGM. Alors, il y a des bactéries OGM qui nous permettent de produire des médicaments. Il y a des virus OGM qui permettent de faire des vaccins. Ce sont des OGM aussi. Il y a des plantes OGM dont on parle aujourd'hui. Il y a aussi des animaux OGM qui permettent, par exemple, de produire des médicaments, par exemple l'insuline ou l'interféron.
Et au sujet des biens de consommation courante dont vient de parler Marie-Claude, les produits que nous consommons tous les jours, s'agit-il de modification ou de sélection?
Alors, c'est deux étapes. Il y a une étape où on fait rentrer ce gène de la même espèce comme pour la pomme de terre ou d'une autre espèce, et ensuite on le sélectionne. Mmh. Alors maintenant, il faut savoir que depuis le début de l'agriculture, l'homme a modifié les plantes par des techniques très grossières, par croisement. Par croisement, on fait rentrer un gène d'une plante dans une autre plante. Mais ça demande plusieurs années de travail. La technique des OGM, la transgénèse, c'est de permettre de faire cela en quelques mois, donc gagner un très grand nombre d'années pour sélectionner une plante ou une virus ou une bactérie d'intérêt.
Comme la clémentine, par exemple, qui en est un bel exemple.
Alors, il faut que vous sachiez que maintenant, tous les fruits que nous mangeons aujourd'hui sont des fruits que l'homme a modifiés par la sélection. Ce que nous mangeons au Moyen-Âge n'a plus rien à voir avec ce que nous mangeons aujourd'hui. Toutes les plantes, y compris les pêches, les abricots, les tomates et les clémentines, ont été modifiées par l'homme par sélection, mais pas par cette technique. Mais faire entrer un gène d'intérêt dans une autre plante, ça a toujours existé, c'était par ce qu'on appelle les croisements, mais aujourd'hui la technique de transgénèse d'OGM permet de faire plus vite.
On écoute Josiane de Paris, bonjour Josiane.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Voilà, je ne suis pas scientifique, je ne fais pas d'études sur les OGM, Mais seulement, ce que je vois dans la vie courante, chaque jour, d'abord, je pense que Mme Corinne Lepage, elle est sincère. Elle est correcte, elle est sensée, elle est objective. Mais ce que je vois dans la vie courante, c'est que lorsqu'il s'agit de faire fortune ou dépend de la santé, l'homme est comme un chacal, un rapace, et il se corrompt très facilement. C'est simplement ce que j'ai à vous dire.
Merci. Merci beaucoup, Josiane, pour votre témoignage. Corinne Lepage, que voulez-vous répondre à Josiane de Paris?
Il y en a...
La rapacité.
Je remercie cette dame qui a dit un mot gentil en ce qui me concerne.
Oui.
C'est vrai que les domaines de la santé, de l'agroalimentaire sont des domaines où il y a des sommes énormes en jeu. Les intérêts financiers sont colossaux. Les intérêts financiers autour des OGM sont absolument colossaux. Monsanto représente aujourd'hui 72 ou 75% des brevets dans le monde en ce qui concerne les OGM. Bon, donc il faut pas être naïf, ce sont des enjeux extrêmement importants. Moi, je ne suis pas du tout contre les biotechnologies. Et je rejoins Joël Spirou tout à l'heure quand il disait qu'il n'avait rien de particulier à dire sur l'utilisation du génie génétique à des fins de médicaments. Simplement, je suis comme beaucoup d'autres et je suis les questions de santé environnement, encore une fois, sans être scientifique depuis 25 ou 30 ans. Bon, je me rend compte que nous avons de plus en plus de soucis, même si l'espérance de vie croît avec des maladies comme le cancer ou les maladies de la dégénérescence, que les études qui sont faites aujourd'hui portent beaucoup plus, et c'est dommage, sur le développement des produits que sur les effets de ces produits sur la santé humaine. Et moi, c'est cela qui m'intéresse. Et je pense qu'on a besoin des deux pour progresser. C'est comme l'homme, il a deux pieds, hein, deux jambes. Nous avons besoin de nouvelles technologies, et c'est extrêmement important, mais nous avons besoin de technologies qui servent le progrès humain, et c'est tout aussi important. Donc voilà, mon objectif à moi, c'est qu'on ait l'un et l'autre.
Merci.
Et c'est pour ça que je me suis élevée tout à l'heure, lorsqu'il y avait une forme d'assimilation entre ce que nous avons fait, entre l'étude du CRIGEN et la destruction de champs d'OGM, parce que c'est pas du tout la même
démarche. Les OGM, on a bien parlé des enjeux financiers qu'ils représentent, mais est-ce que ces enjeux ne sont pas aussi humanitaires quand on sait que l'un des objectifs de cette manipulation génétique, entre guillemets, de cette sélection, permet, et là je vais schématiser à l'extrême, de faire pousser des légumes dans le désert
aujourd'hui, monsieur, pas aujourd'hui. Moi, je voudrais bien que ce soit vrai, mais ce que fait le Burkina Faso, c'est du coton bété.
Oui.
C'est pas pour pousser dans le désert.
Ouais.
Ce qui se passe en Inde, c'est la même chose avec des productivités en chute libre, ce qui fait que les paysans indiens se retrouvent dans des positions épouvantables. Moi, je serais la première, si on avait des OGM qui poussent sur sol salin ou avec très peu d'eau, et qui amènent quelque chose, qui offre un avantage à la société et aux sociétés, de dire bon, ben c'est très important, essayons de voir pour améliorer ça au mieux, qu'il n'y ait aucune conséquence négative sur la santé. Mais c'est pas ça que nous avons aujourd'hui sur la table. C'est des OGM qui sont tolérants aux pesticides ou qui sont eux-mêmes pesticides, avec tous les sujets sur la table liés aux pesticides aujourd'hui. C'est ça mon souci.
Professeur Fellous.
Oui, je voudrais dire que ce que dit Madame Lepage, c'est partiel. Je vois deux OGM qui sont, un en expérimentation et un qui sont prêts à sortir si les faucheurs n'arrêtent pas l'expérience. Le premier OGM qui apporte pour la santé, c'est ce riz qui contient un précurseur de la vitamine A, qui est responsable de 70 000 morts par an chez les enfants, qui est en expérimentation et que Greenpeace essaye d'empêcher.
Dont la carence, vous voulez dire, la carence en vitamine A.
Oui. Donc voilà un OGM santé extrêmement intéressant qui a été développé par le professeur Ingo Pritrokus en Suisse il y a 10 ans. Mmh. Et ce que ce professeur réclame, c'est que les systèmes d'analyse prend tellement de temps que ça met beaucoup de temps pour arriver, pour résoudre un problème de santé publique, un manque de vitamine A responsable de mortalité chez l'enfant. Ça, c'est le premier OGM de santé qui allait être extrêmement intéressant et qui a passé toutes les commissions et qui a l'air d'être très intéressant. Le deuxième type d'OGM, ce sont des OGM qui sont prêts à être expérimentés, sauf que les faucheurs vont les détruire. En particulier, en France, il y a un OGM qui résiste à la sécheresse. Et cet OGM a été détruit. Et le laboratoire qui fait cette expérience fait les expériences maintenant en Amérique du Sud. Et il y a d'autres OGM qui sont prêts à être utilisés. C'est les OGM qui poussent dans des sols très riches en sel, qui eux aussi sont prêts à être mis sur le marché dans les régions où on en a besoin. C'est évident que ce dont nous parlons, c'est d'OGM, et en fonction des besoins d'un pays, d'une région, d'un environnement climatique. Et donc ces OGM qui sont prêts à être mis en expérimentation, du moins en France, on ne peut pas le faire parce que les expérimentations sont détruites. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de mes collègues chercheurs de l'INRA ne veulent plus se lancer dans ce type de recherche parce que leurs expérimentations sont détruites. Et c'est la raison pour laquelle, à l'INRA, il y a très peu de projets, il n'y a pas de projets sur ces technologies.
Gilles Rivière-Weckstein.
Oui, alors c'est vrai que les OGM, ce n'est pas la solution à la famine dans le monde. Personne, peut-être que Monsanto l'a dit une fois, c'est tout à fait une erreur de dire ça. Simplement, vous avez vu cette année qu'il y a quand même pas mal de problèmes au niveau de la production de maïs. Bon, en gros, on estime, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Arvalis, l'institut technique français qui s'occupe de l'agriculture, qui le dit, on estime qu'en France, on pourrait gagner 4, 5 quintaux supplémentaires si on avait simplement un maïs tolérant à la pyrale. Pas tolérant à la pyrale, qui résiste à la pyrale, hein, puisque c'est un petit peu les pertes actuelles qu'on voit. Donc bon, c'est pour la France. Vous savez que ces maïs ont été adoptés aux États-Unis à 80%, au Brésil la même chose. Alors, au Brésil, c'est le président Lula, hein, qui est quelqu'un de gauche, si vous voulez, qu'on peut pas accuser d'être à la solde de Monsanto. Vous voyez, qui lui a autorisé les cultures de ces OGM alors qu'on l'a interdit en France. Vous voyez, c'est donc, et là, c'est quand même 80%. Donc si c'est à l'échelle mondiale aujourd'hui, si vous retirez les OGM, on aura dans le maïs, hein, que dans le maïs, on aura quand même une perte de production qui n'est pas négligeable. En revanche, pour le blé, c'est pas du tout le cas aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de blé OGM. Et les OGM ne sont pas la solution à la famine. Simplement, les biotechnologies en général peuvent apporter des facilités aux sélectionneurs pour pouvoir mettre sur le marché des nouvelles variétés. Pas simplement avec un meilleur rendement, mais aussi avec d'autres facultés. Par exemple, qui peuvent soit de résister à une maladie. On a parlé d'une pomme de terre. Il y a la pomme de terre, en l'occurrence, qui avait été testée par BASF, qui n'a effectivement pas été adoptée par les agriculteurs. C'est une pomme de terre résistante au mildiou. Qui est en cours d'homologation. Donc, elle est aujourd'hui, ces essais ont été refusés en France, ils ont été faits en Suède. BASF estime aujourd'hui que finalement, si l'Europe ne veut pas des OGM, on fera ça ailleurs. Ouais. Mais là, vous avez une pomme de terre qui est résistante au mildiou. Donc, ça montre qu'il y a beaucoup d'idées, d'innovations possibles dans les biotechnologies. Et c'est un petit peu là où, comme je le dis à nouveau, on est en train de faucher la science. Parce que on fait un mélange général, on attaque tous les OGM sont dangereux, tous les OGM ci, tous les OGM ça.
Là, on désigne uniquement le NK603 dans l'étude.
Absolument n'importe quoi. Alors, premièrement, je voudrais répondre sur ce qu'a dit Monsieur Fellou.
Oui.
Sur le riz vitaminé, c'est une histoire qui traîne depuis 15 ans. Sauf que pour que ça ait véritablement un effet, il faut plusieurs kilos de riz par jour, et c'est la raison pour laquelle ça n'a jamais fonctionné.
Non, ça a changé, madame. Mettez-vous à jour, s'il vous plaît.
Bon, deuxièmement, en ce qui concerne les produits résistants à la sécheresse, pourquoi pas? C'est quelque chose dont on parle depuis 15 ans. Vous dites qu'on peut pas le faire en France. Très bien, il y a quand même beaucoup d'autres pays dans le monde. Pourquoi diable cela ne s'est-il pas développé si c'est si facile de le faire? Pourquoi est-ce que les Américains ne le commercialisent pas?
Ça a été testé et prouvé, oui, très intéressant actuellement en période de sécheresse. En période
de sécheresse,
vous savez qu'il y a une sécheresse aux États-Unis et on l'a montré.
Monsieur,
et c'est extrêmement intéressant. Mais pourquoi
ça a peut-être été testé, mais le problème n'est pas là. Moi, je vous parle de ce qui existe dans la vraie vie. C'est-à-dire aujourd'hui des OGM qui sont pesticides ou tolérants aux herbicides. Il n'existe sur le marché que ça. C'est ça qui est vendu parce que c'est ça qui est rentable. Il faut quand même revenir à ça. Pourquoi est-ce que les ventes de Roundup ont augmenté de 15% avec un maïs qui est tolérant au Roundup? Bah, précisément parce qu'on peut en utiliser beaucoup plus. Alors ça, c'est la vraie vie. Il faut quand même que les gens sachent, en dehors des rêves qu'on peut avoir, des souhaits qu'on peut avoir, ce que on peut aujourd'hui acheter sur le marché. Et puis, il n'y a pas que la France. Nous sommes en Europe. La pomme de terre Amflora a effectivement été autorisée par la Commission européenne avec des avis négatifs de pratiquement toutes les agences sanitaires nationales. Ça a finalement été autorisé, ça n'a pas été utilisé.
Le HCB n'a pas donné un avis négatif, je m'excuse madame. Tenez-vous au courant, s'il vous plaît. Relisez vos dossiers.
La partie scientifique, peut-être pas, mais la partie non scientifique, je crois me souvenir que oui.
Oui, mais les scientifiques du HCB ont donné un avis favorable à cette expérience.
Pas globalement.
Mais si, madame, j'étais présidente de cette commission quand on l'a donnée.
Le HCB, je ne crois pas que vous siégez à l'actuelle haute autorité.
J'étais à la CGB, puis le HCB a confirmé.
La CGB aussi, madame.
Tenez-vous au courant, s'il vous plaît.
Un tout petit point pour terminer. Faut-il inscrire sur les étiquettes la présence d'OGM dans les produits que nous consommons?
Les gens ont le droit de le savoir quand même.
Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas?
C'est fait, mais pas en totalité. C'est fait, nous avons même amélioré au niveau européen l'étiquetage. Maintenant, on peut avoir un étiquetage sans OGM, ce qui a été impossible pendant des années et des années.
Oui.
Mais il reste les produits dérivés qui ne sont pas nécessairement étiquetés. Et moi, je pense indispensable que les gens puissent choisir de manger OGM ou sans OGM.
Marc Fellous.
Oui, le problème de l'étiquetage, en fin de compte, il est compliqué par la notion de seuil. À partir de quand on dit qu'un aliment a un OGM? Et c'est là où il y a le débat. Est-ce que c'est 0%? Est-ce que c'est 1%? Est-ce que 0,9%? Et c'est pour ça que cet étiquetage est compliqué.
Gilles Rivière-Weckstein.
Oui. Moi, je pense que soit les OGM sont effectivement dangereux pour la santé, il faut les interdire. Soit ils ne représentent aucun risque pour la santé. Et à ce moment-là, l'étiquetage ou pas étiquetage, je ne vois pas en quoi ça change. On va vous dire, puisque ce n'est pas dangereux, il faudrait mettre sur les produits là où il y a un risque. Soit c'est dangereux, on les interdit. Soit c'est pas dangereux, on les consomme. Puis voilà, où est le problème?
Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission, à vous tous de nous avoir suivis. Je remercie Corinne Lepage, fondatrice du CRIGEN, comité de recherche et d'information indépendant sur le génie génétique, présidente du parti CAP 21, parti humaniste et écologiste. Merci au docteur Joël Spirou qui est avec nous, président du CRIGEN, co-signataire de cette fameuse étude qui vient d'être révélée par la presse. Merci au professeur Marc Fellous, professeur de génétique à l'université Paris 7. Et merci à Gilles Rivière-Weckstein, dont je rappelle le dernier ouvrage paru aux éditions Le Publieur en 2012, Faucheurs de science, les fanatiques sont dans nos campagnes. Excellente journée et à très bientôt.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Ecclesia Magazine, Élodie Chapelle.
Retrouvez-moi tous les jours dès 10h30 dans Ecclesia Magazine. Je donne la parole à des acteurs impliqués sur le terrain, reportages, témoignages et rencontres exceptionnelles aux quatre coins de l'Île-de-France. Ecclesia Magazine, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, dès 10h30.
Tous les dimanches, entrez dans les plus grands monastères et joignez-vous à la prière séculaire des moines.